Le 28 septembre, une semaine avant le début des séries, je suis entré chez Faith Financial. Et après avoir un peu tergiversé, j'ai allongé $600 sur les Pirates de Pittsburgh contre les Yankees de New York. J'ai accepté une cote de 2 contre 1, ce qui était proprement scandaleux vu que les Yankees partaient largement favoris. Et le lendemain du jour où Bill Mazeroski frappa son coup de circuit inespéré dans la 9e manche, scellant ainsi la victoire des Forbans, je suis retourné à Dallas, Greenville Avenue. Je pense que si la Faith Financial avait été déserte, j'aurais fait demi-tour et repris ma voiture pour rentrer à Jody. Ou peut-être que c'est ce que je me dis maintenant. Je n'en suis pas vraiment sûr. Ce dont je suis sûr, c'est qu'il y avait une file d'attente de parieurs attendant d'empocher leurs gains et que je les ai rejoints. Ce groupe était le rêve de Martin Luther King réalisé. 50% noirs, 50% blancs et 100% heureux. La plupart des gars ne ressortaient qu'avec quelques billets de 5 ou peut-être 2 ou 3 de 10, mais j'en ai vu plusieurs qui comptaient des billets de 100. Un voleur à main armée qui aurait choisi ce jour-là pour attaquer la Faith Financial ne serait pas reparti les mains vides. Le caissier était un type trapu, coiffé d'une visière verte. Il m'a posé la première question de routine. « Êtes-vous flic ?»« Si oui, vous devez me montrer votre carte. » Et quand j'ai répondu par la négative, il m'a demandé mon nom et de jeter un coup d'œil à mon permis de conduire. J'en avais un tout neuf, reçu en recommandé la semaine précédente. Enfin une pièce d'identité du Texas à ajouter à ma collection. Et j'ai pris soin de masquer du pouce mon adresse à Jody. Il m'a réglé mes 1200 tickets. Je les ai fourrés dans ma poche et j'ai regagné ma voiture d'un pas rapide. Revenu sur la 77, avec Dallas s'éloignant derrière moi et Jody se rapprochant à chaque tour de roue, je me suis enfin détendu. Idiot que j'étais. Faisons un autre bond en avant dans le temps. Si vous y réfléchissez une seconde, il y a des terriers de lapins dans les récits aussi. Mais d'abord, je dois vous raconter autre chose sur l'année 1960. Fort Worth, 16 novembre 1960. Kennedy, élu président depuis un peu plus d'une semaine. Angle de Ballinger et de West 7th. Journée froide et couverte. Voiture crachant des fumées d'échappement blanche. Le présentateur de la météo sur KLIF, tous les hits, tout le temps, annonçait de la pluie qui risquait de se changer en neige fondue avant minuit. « Donc, soyez prudents sur les routes, vous tous, les rockers et les rollers !» J'étais emmitouflé dans une veste de rancher en mouton retourné et coiffé d'une casquette de feutre au rabat bien plaqué sur mes oreilles. Assis sur un banc en face de l'Association des éleveurs bovins du Texas, je regardais vers le bas de West 7th. J'étais là depuis presque une heure, et je ne pensais pas que le jeune homme s'attarderait beaucoup plus longtemps que ça chez sa mère. D'après les notes de Hal Templeton, ses trois fils avaient mis de la distance entre eux et elle dès qu'ils l'avaient pu. Ce que j'espérais, c'était qu'elle sorte de son immeuble avec lui. Elle était de retour dans le secteur depuis peu, après avoir travaillé plusieurs mois à Waco comme dame de compagnie. Ma patience a été récompensée. La porte des Rotary Apartments s'est ouverte et un homme maigre qui ressemblait étrangement à Lee Harvey Oswald en est sorti. Il a tenu la porte à une femme vêtue d'un caban écossais et de solides chaussures d'infirmière blanche. Elle lui arrivait seulement à l'épaule, mais elle était solidement charpentée. Ses cheveux grisonnants étaient sévèrement peignés en arrière autour d'un visage prématurément ridé. Elle portait un foulard rouge. Un rouge à lèvres assorti soulignait une petite bouche semblant exprimer l'insatisfaction et l'agressivité. C'était la bouche d'une femme qui croit avoir le monde entier contre elle et en a eu quantité de preuves au fil des années. Le frère aîné de Lee Oswald descendit rapidement l'allée en ciment. La femme lui courut après et l'attrapa par le dos de son manteau. Il se retourna vers elle sur le trottoir. Ils parurent se disputer, mais c'était la femme qui monopolisait la conversation. Elle lui agita le doigt au visage. Impossible de savoir à propos de quoi elle vituperait. Je me trouvais à la distance prudente d'un bloc d'immeuble et demi. Puis, l'homme se dirigea vers l'angle de West 7th et de Summit Avenue, comme je l'avais prévu. Il était venu en bus, et c'est là que se trouvait l'arrêt le plus proche. Comme indécise, la femme resta un moment plantée où elle était. « Allons, maman, » ai-je pensé. « Tu ne vas pas le laisser s'en tirer aussi facilement, si ?»« Il est juste à un demi-bloc d'immeuble de toi. » Lee a dû s'en aller jusqu'en Russie pour échapper à ton doigt menaçant. » Elle se lança à sa poursuite. Et alors qu'ils approchaient du coin de la rue, elle éleva la voix et je l'entendis clairement. « Arrête, Robert ! Ne marche pas si vite, je n'en ai pas fini avec toi !» Il regarda par-dessus son épaule mais continua à marcher. Elle le rattrapa à l'arrêt de bus et tira sur sa manche jusqu'à ce qu'il la regarde. Le doigt reprit son va-et-vient d'horloge. Je saisissais des phrases isolées. « Tu avais promis !» et « T'es tout donné !» et « Je crois, qui es-tu pour me juger ?» Je ne pouvais pas voir le visage d'Oswald parce qu'il me tournait le dos, mais son dos voûté était éloquent. Je doutais que ce soit la première fois que maman le suive dans la rue, pérorant à perdre haleine, se moquant des spectateurs. Elle déploya sa main sur le promontoire de son buste, ce geste maternel intemporel pour dire « Regarde-moi bien, ô toi, rejeton ingrat !» Oswald fouilla sa poche arrière pour en extraire son portefeuille et lui tendit un billet. Elle le fourra dans son sac à main sans le regarder et commença à remonter vers les Rotary Apartments. Puis, elle pensa à autre chose et se retourna encore vers lui. Je l'entendis clairement. Sa voix aigre, poussée dans les aigus pour porter par-dessus les 15 ou 20 mètres qui les séparaient, crissait comme des ongles sur un tableau noir. « Et surtout, appelle-moi si tu as encore des nouvelles de Lee, tu entends ? Je suis toujours sur la ligne de téléphone partagée. C'est tout ce que je peux me permettre tant que je n'ai pas décroché un meilleur emploi. Et cette bonne femme du rez-de-chaussée, la mère Sykes, elle y reste tout le temps pendue. Je suis allé lui parler, je lui ai dit le fond de ma pensée. « Madame Sykes !» je lui ai dit. Un homme passa devant elle en se collant théâtralement un doigt dans une oreille, un large sourire aux lèvres. Si Ma Oswald le vit, elle l'ignora royalement. Elle ignora en tout cas la grimace d'embarras de son fils. « Madame Sykes !» que je lui ai dit. « Vous n'êtes pas la seule à avoir besoin du téléphone. Alors je vous serai reconnaissante d'abréger vos appels. » Et si vous ne le faites pas de votre propre chef, je me verrai contrainte d'appeler un employé de la compagnie du téléphone pour vous y obliger. Voilà ce que je lui ai dit. Alors appelle-moi, Rob. Tu sais que j'ai besoin d'avoir des nouvelles de Lee. Voilà qu'arrivait le bus. Comme il s'arrêtait, Oswald haussa la voix pour être entendu par-dessus le dégagement d'air des aérofreins.
C'est un foutu coco et il rentrera pas. « Autant t'y habituer, Ma !»«
Tu m'appelles !»
glapit-elle. Son petit visage sévère était figé. Elle se tenait, les jambes écartées, tel un boxeur prêt à encaisser un coup. N'importe quel coup, tous les coups. Ses yeux flamboyaient derrière ses lunettes arlequins cerclées de noir. Son foulard était maintenu sous son menton par un double nœud. La pluie s'était mise à tomber, mais elle n'en avait cure. Elle reprit sa respiration et leva le ton pour crier presque.
« J'ai besoin d'avoir des nouvelles de mon petit garçon, tu m'entends ?»
Robert Oswald grimpa d'un bond le marchepied du bus et disparut sans répondre. Le véhicule redémarra dans un nuage de gaz d'échappement bleu. En même temps, un sourire éclaira le visage de Marguerite Oswald. Il eut pour résultat une chose dont je n'aurais jamais cru un sourire capable. Il la fit paraître simultanément plus jeune et plus laide. Un ouvrier la dépassa. Sans la bousculer ni même l'effleurer, pour autant que j'ai pu le voir, mais elle aboya sèchement.
« Regardez où vous allez! Vous n'êtes pas propriétaire du trottoir !»
Marguerite Oswald reprit le chemin de son appartement. Avant qu'elle me tourne le dos, je vis qu'elle souriait toujours. Je rentrai à Jody agité et pensif cet après-midi-là. Je ne verrai pas Lee Oswald avant encore un an et demi, et j'étais toujours déterminé à l'empêcher de nuire, mais je ressentais déjà plus de compassion pour lui que je n'en avais jamais éprouvé pour Frank Dunning.